Pouvez-vous vous présenter?
Je m'appelle Jean-Marie Thierry, j'ai 72 ans, comme ça vous voyez mon âge. Je suis papy-chat de quelques petits-enfants aussi. Voilà, je suis échevin à la commune de Chastres. J'ai repris mes fonctions en février 2020 et je suis échevin de l'énergie, de l'environnement, de la mobilité, des cimetières et du petit patrimoine.
En quoi consiste votre métier d'échevin ?
Le métier d'échevin, je viens de dire que j'ai des matières, 5 matières. C'est faire avancer des dossiers dans chacune des matières. Voir ce qui est important, voir où il y a une demande ou bien une opportunité, parfois un subside qu'on reçoit et on se dit ben ça on va le faire parce qu'il y a la possibilité d'avoir un subside, donc l'argent pour le faire et de le faire avancer, de le porter. Alors ça demande beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, du travail aussi un peu en dehors.
Quelle est votre journée type en tant qu'échevin ?
Une journée type. Ce matin, à 9h, j'étais à la commune pour une réunion de mobilité. On va aménager la rue de l'école à Blancmont pour en faire quelque chose d'un peu plus vivable, un peu plus un lieu de rencontre. À 10h, je rencontrais la ministre Céline Tellier qui venait à Saint-Collier et elle m'avait demandé d'être là pour l'introduire un peu. À 11h, je retournais à mon autre réunion. J'ai pris le temps de manger 1 heure et je suis chez vous aussi. Donc c'est un métier pluriel. On fait plein de choses. Le jeudi matin, on a un collège. Donc tous les échevins avec le bourgmestre, on se réunit. On traite les dossiers qui sont en cours. On en traite sur la matinée entre 40 et 60. Et souvent, on a toujours d'autres réunions. Bon, je ne travaille pas tout seul, hein. J'ai un conseiller en environnement, en agriculture, j'ai un conseiller en mobilité, une conseillère en mobilité, j'ai un service cimetière, donc j'ai tous ces gens-là avec qui je travaille. Eux travaillent 8 heures par jour sur les dossiers qu'on a partagés ensemble. Je pourrais pas faire le boulot de 5 personnes, 5 fois 8, ça ferait peut-être beaucoup pour moi. Déjà comme ça, je vous assure que les journées sont bien remplies.
Est-ce votre seul métier ?
Alors, actuellement, oui. Puisque je suis pensionné, donc j'ai été professeur de mathématiques et puis j'ai été directeur d'école. Depuis, j'ai un autre métier qui est d'être parent, grand-parent, et puis maintenant j'ai repris ça. Donc à côté de ça, c'est pas tout à fait un temps plein échevin, c'est-à-dire qu'on pourrait le faire en temps plein et on pourrait le faire en 200 fois le temps, mais... J'essaie de garder un peu de temps pour faire quand même d'autres choses, quoi.
Pouvez-vous nommer les différents bois et forêts de la commune ?
Alors, j'ai repris le plan parce que je me suis dit que j'allais peut-être en oublier. Vous avez de la chance ici. Vous êtes dans l'endroit, dans le coin où il y a le plus de bois. Vous avez le bois ici derrière Congolo, là-bas. Vous avez le bois de l'Ermitage qui est juste à côté. Vous avez les bois de Giron-Villers là-bas au bout, hein. Vous êtes vraiment tout près de la plupart des bois. Vous avez le bois de Saint-Géry qui est tout près aussi. Vous avez, et puis encore des bois en continuant juste après, là-bas, près du Moulin du Saint. Donc c'est vraiment un endroit qui est boisé. Si on regarde sur la carte, les bois, ils ont en général été mis dans les vallées. Il y a le bois Quineau là-bas qui descend, mais qui entoure la rivière de l'Orne, qui nous amène pas mal d'eau. C'est elle qui inonde un peu toute la commune là-bas. Vous avez ici un beau bois, celui-là je le connais bien parce que c'est le mien, en allant vers Hernage. Et puis quand on arrive dans le reste, il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit bois qu'on appelle le bois de sapin en allant vers Villeroux. Ce sont des pins mais pas des sapins. Le bois de la commune qui est juste derrière la commune. Et puis on sort et ici on arrive un peu à la limite de Blancmont en allant vers Nîles et vers Mont-Saint-Guibert. Il y a un bois, on appelle le bois du Potier. Mais vous voyez, il n'y a pas énormément de bois dans la commune, même s'il y en a un petit peu partout, il n'y en a quand même pas énormément. Là-dedans, il y a des bois qui appartiennent à la commune, et alors il y a le bois de l'Ermitage qui, en fait, appartient au CPAS, donc il y a aussi une institution publique. Les autres bois sont des bois privés, mais on n'est pas boisé comme dans certaines régions de l'Ardenne ou même du Namurois. Pourquoi ? Parce que la plus grande partie de la commune, 75%, ce sont des terres agricoles.
Qui s'occupe de la gestion forestière ?
Les bois privés, ce sont évidemment des privés. Les bois publics, qui appartiennent à la commune ou au CPAS, c'est le département de nature et forêt, c'est l'EDNF. C'était l'ADNF avant, c'était division, c'est devenu département, donc c'est l'EDNF. Donc ça veut dire qu'on ne peut rien faire sans eux. Ils sont, normalement, c'est eux qui s'en occupent tout le temps s'il y a des problèmes. Par exemple, ici, dans le bois de l'Ermitage, il y a eu des grands arbres qui étaient malades, des grands arbres qui sont tombés. C'est l'EDNF qui gère tout ça.
Qui donne l'autorisation de construire des maisons sur le territoire de la commune ?
Qui donne l'autorisation ? Donc, les gens qui veulent construire rendent un permis. Il faut un permis de construire. Et nous, on analyse le permis, on vérifie s'il est dans les règles, parce qu'on a une série de règles. On ne peut pas construire n'importe quoi, n'importe où. Par exemple, on ne pourrait pas construire un building sur le terrain ici en face, même s'il est constructible. Ici, on ne peut faire que des maisons. À certains endroits, par exemple près de la gare de Chasse ou près de la gare de Blancmont, il faut construire, on peut construire un peu plus grand. Pourquoi ? Bah, parce qu'il y a les transports en commun juste à côté. Donc il y a un document qui s'appelle le schéma de structure qui a défini village par village ce qu'on pouvait faire en fonction de l'endroit où on se trouvait, plus dans le centre ou plus éloigné. Il y a des zones qui, les zones agricoles par exemple, on ne peut pas construire, à une petite exception dont je vous parlerai après, mais il y a aujourd'hui un grand schéma qui a défini les zones qui étaient constructibles. Et on ne peut pas en sortir. Aujourd'hui, on ne construit des maisons que dans les endroits où il y a une autorisation de construire, qui a été définie par le gouvernement wallon, pas par la commune. D'accord ? Donc nous, on doit veiller à ce que ça soit respecté. Si on veut construire ici en face, ben on va dire non. Alors l'exception, en terre agricole, un agriculteur peut construire un hangar. Et à côté de son hangar, il peut construire sa maison.
Y a-t-il des zones naturelles protégées dans la commune de Chastres ? Qui s'en occupe ?
Alors, il y a une vraie réserve naturelle qui est gérée par Natagora, dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui est une toute petite réserve naturelle qui se trouve entre Cortil et Jonglou. C'est eux qui la gèrent, c'est pas très grand, ils n'ont pas grand-chose à faire, ils vont de temps en temps un peu dégager. Et il y a ici, derrière Congolo, une partie humide qui fait plus d'un hectare et qui, là, est une réserve domaniale, donc c'est une réserve de l'État. Et c'est de nouveau le DNF qui la gère.
Pourquoi maintenant y a-t-il moins de haies qu'il y a des dizaines d'années ?
Il y a longtemps, on ne va pas dire il y a longtemps, aux alentours des années 1970, on a fait ce qu'on appelait un remembrement. Remembrement, c'est se dire, il y avait plein de petites terres agricoles à gauche, à droite, mais parfois des petits trucs de 20 hectares, de 30 hectares. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de petits fermiers. Il y a aujourd'hui beaucoup moins d'agriculteurs. Je crois qu'il y en a 10 fois moins. Il y en a 10 fois moins qu'à l'époque. Et donc, s'il y a 10 fois moins d'agriculteurs, ceux qui cultivent aujourd'hui, bah, ils cultivent des plus grandes terres. Et à l'époque, on a remembré, c'est-à-dire qu'on a remis un peu d'ordre dans tout ça. On a fait des plus grands blocs. S'il y avait un agriculteur qui était propriétaire d'une série de terres, on a dit, bah, on va regrouper toutes tes terres là-bas, on va redonner à l'autre. Donc, on a remembré. Dans le cas de ce remembrement, on a supprimé plein de haies. Les haies ont été alors considérés comme étant des obstacles, comme étant des choses gênantes. Et c'est comme ça qu'on a des espaces immenses dans lesquels il n'y a plus de haies. Dans le temps, les haies étaient souvent des clôtures, c'était souvent les limites entre les parcelles. Ça existe encore dans certaines régions, hein, en France notamment, ou même en Angleterre, tout ça. Il y a encore beaucoup de haies qui servent de limite entre les parcelles. Mais comme on a fait de plus en plus grand, ben, toutes les haies qui étaient à l'intérieur, on les a rasé, malheureusement. Aujourd'hui, on se rend compte de l'influence que les haies ont. À partir du moment où tu as un grand espace comme ici au milieu et que c'est entrecoupé de haies, mais même s'il pleut très fort, ça va pas. La terre ne va pas partir, elle va rester coincée dans les haies. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. C'est que comme on a supprimé toutes ces haies, on a des grandes parcelles et donc l'eau, elle part avec la bonne terre. Voilà.
Est-ce que la commune plante des haies aux abords des routes communales ? Que fait la commune pour favoriser la biodiversité ?
La commune plante aussi, Donc nos ouvriers communaux ont planté beaucoup cette année. Il y a aussi des privés qui plantent. Depuis quelques années, donc, il y a un subside que la région donne pour les plants, pour les agriculteurs. Yes, we plant, on peut demander des subsides et il y a des haies comme ça qui sont arrivées un peu partout. Il y a aussi un rôle de favoriser, c'est-à-dire d'aider les gens qui le veulent à trouver les subsides pour obtenir des plans de haies pour le faire, ou parfois même la commune va, avec le matériel de la commune, creuser le sillon pour pouvoir planter, ou prête le matériel, la tarière pour faire les trous pour planter. Donc c'est dans ce sens-là que ça va. Il y a une chose qu'on fait aussi, si vous venez aux alentours, enfin un peu partout dans la commune, mais donc les bords de champs sont fauchés, mais il y a un mètre qui est fauché, le reste on n'y touche pas pendant toute la saison. Ça s'appelle le fauchage tardif, parce qu'on sait que dans les grandes herbes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tous les insectes qui s'y reproduisent, il y a des batraciens, il y a des orvets, là, genre de petits serpents, tout ça. Il y a des reproductions d'oiseaux aussi dans les talus. Donc la commune, tous les bords de champs, il y a juste un mètre le long du chemin qu'on essaie d'entretenir un peu pour que le passage ne soit pas refermé, mais le reste, on ne le fait qu'une fois par an.
La commune distribue-t-elle des arbres pour les particuliers ? Qui peut en profiter et quand cela se fait-il ?
À la Sainte-Catherine. Donc en novembre, je dois avoir la date déjà, mais ça doit être le dernier dimanche de novembre. La commune distribue des arbres. On a distribué cette année-ci entre 700 et 800 arbres que les gens viennent chercher. Et ça se fait depuis, j'allais dire depuis toujours, mais depuis longtemps, longtemps, quoi.
Quels sont les moyens utilisés par la commune pour désherber les abords des routes ?
Il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans, le plus simple pour qu'il n'y ait pas des mauvaises herbes sur les routes, c'était de les pulvériser. Hein? On passait avec un produit qui s'appelle le Roundup. On s'est rendu compte que tous les produits qu'on mettait sur les bords de route ou sur tous les endroits comme les trottoirs qui vont en contact direct avec le filet d'eau qui va par les égouts dans la rivière, que tous les produits qu'on mettait, ils partaient dans les rivières. Dans les cimetières, il y avait du gravier dans les allées. Ça faisait au total à peu près d'un hectare, ce qu'on disait tantôt. Eh bien, on passait deux fois par an avec du produit pour pulvériser ça. Et depuis une dizaine d'années, c'est interdit. Donc, puisque c'est interdit qu'on ne peut plus employer de produits, qu'est-ce qu'on fait ? Vous la voyez de temps en temps passer. On a une balayeuse qui enlève les mauvaises herbes, qui ramasse toutes les saletés, les feuilles et tout, et qui embarque tout, quoi.
Quel est le lien entre la commune et Chastre Biodiversité ? Comment les aidez-vous ?
Chastre Biodiversité, c'est vraiment l'ancêtre de tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des plans communaux de développement de la nature. Chastre Biodiversité a existé avant que le PCDN, qui n'existe plus aujourd'hui, PCDN, Plan Communal de Développement de la Nature, on recevait des aides qui venaient de la région pour faire des projets chaque année. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Chastre Biodiversité a existé et est devenu, enfin, a été recopié par d'autres communes et par la région. C'est vraiment un ancêtre et je suis sûr que ça leur fera plaisir que je dis ça. C'est eux qui ont été les premiers à prendre l'initiative. Donc Chastre Biodiversité, sans doute que Habitants Gentilnes, vous devez savoir ce qu'ils font. Donc ils plantent des haies et des arbres, futurs arbres remarquables, un peu partout à gauche. Ah, c'est eux qui plantent et ils sont des bénévoles, des volontaires qui le font. Comment est-ce qu'on les aide ? D'abord par un subside qu'on leur donne annuellement. Quand ils ont des projets, on achète les arbres aussi, on leur donne les arbres, ils le font. Et en revanche, ils font aussi des plantations pour nous ou pour des agriculteurs près de la Croix de Saint-Géry. Ils ont planté une nouvelle haie là-bas, 700 mètres de haie, je pense. Avec des plans que les agriculteurs avaient obtenus et ils ont été le faire pour eux.
Que fait la commune par rapport à l'écologie et à l'environnement ?
Alors c'est très large si on parle d'écologie. Je ne vais pas parler de politique. Donc dans tout ce que j'ai dit déjà, les plantations, le fauchage tardif, si vous venez aux alentours de la commune en été, vous verrez qu'il y a toute une partie qui n'est pas tondue. On fait des chemins simplement. On laisse un espace avec de très grandes herbes. Alors, il faut bien se conscientiser de l'intérêt des grandes herbes. Ce n'est pas pour ne plus devoir le faire. L'idéal, c'est même dans les grandes herbes de mettre des grains de fleurs. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, dans les jardins, il n'y a plus beaucoup d'endroits pour les pollinisateurs. Pollinisateurs, donc, c'est tous ceux qui vont aller chercher le pollen et polliniser les autres fleurs. Pas que les simples abeilles, il y a les mouches, il y a les bourdons, il y a les abeilles sauvages, etc. Mais il faut qu'elles aient des fleurs pour se nourrir, donc il faut en mettre un maximum. Donc aujourd'hui, il faut mettre ça à l'échelle de la commune. Tous les endroits qu'on ne tombe plus dans les champs, les bordures de champs, qu'on laisse tranquilles, près de la commune, tout ce qu'on laisse en grandes herbes, au domaine, pratiquement toute une partie du domaine, ils laissent des grandes herbes aussi, ben, ça favorise la reproduction, en particulier des insectes, mais aussi des petites musaraignes, des micro-mammifères qui sont là et à qui on, excusez-moi l'expression, mais on fout la paix. Parce que la tondeuse automatique ou la tondeuse qui fait un billard, bah, elle empêche qu'il y ait de la vie encore sur le sol et même en dessous, parce que le petit ver de terre au-dessus duquel on passe toutes les semaines à faire broum-broum, il finit par disparaître, y compris la taupe aussi. On essaie de favoriser aussi la distribution des arbres. Ben, ce n'est pas une action directe, mais c'est favoriser aussi. Et parfois des actions un peu plus loin. On est passé en 2016, donc ça fait déjà quelques années, à la collecte par les poubelles à puces. Poubelles à puces, à partir du moment où les gens doivent peser ce qu'ils mettent, ils font attention. Puis on trie, l'organique part d'un côté et le reste part au résiduel. Donc ce sont des actions qui favorisent la réflexion des gens, le tri des déchets. Je crois que vous êtes assez conscientisé, que vous avez sans doute participé à BIWAP. Voilà, toutes des actions. On peut toujours faire mieux, mais on est là vraiment pour aider les gens, pour favoriser. Et si les gens ont des projets, ben, on essaie de les suivre aussi.
Et vous, que faites-vous personnellement?
Alors, personnellement, j'ai la chance d'avoir un bois. Il est sur le plan là-bas. J'ai 4 hectares de bois entre Cortil et Hernage. Et c'est un vrai plaisir d'y aller tout le temps, de pouvoir observer tout ce qui se passe. Hein. Quand j'ai l'occasion, j'y passe tous les jours. Je me balade, j'écoute, je regarde, je vois ce qui a changé, les arbres qui poussent, je vois des faisans, je vois d'autres, des canards, enfin toutes sortes d'animaux qui sont là. Et puis avoir un bois, c'est pas que le regarder, hein. L'hiver, c'est du boulot. Il y a des arbres qui sont tombés, il faut abattre les arbres qui sont malades, il faut sortir le bois, il faut replanter, ça qui est gai aussi. Hein. On replante, donc quand on y va, c'est aussi pour voir si ça a réussi, et puis il faut leur parler, les arbres. Hein. Si on veut qu'ils poussent bien, il faut leur parler, il faut être gentil avec eux. Hein. Vous n'avez jamais essayé ça? D'abord, il faut commencer par les grands arbres. Hein. Vous embrassez un grand arbre, vous mettez votre tête contre. Vous n'imaginez pas ce qui passe dans un arbre. On a l'impression qu'un arbre... Voilà, maintenant, on voit que ça commence à verdir, les bourgeons sont là, les premières petites feuilles apparaissent. Et on dit, ben, en hiver, il n'y a pas de sève dans un arbre. S'il n'y avait pas de sève dans un arbre, ils seraient tous morts après l'hiver, parce qu'ils seraient desséchés par le froid. Il y a encore de la sève qui monte dans un arbre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour tenir éveillés ou vivants tous les rameaux. Mais tout d'un coup, au printemps, il y a plus de lumière, il y a plus de chaleur, paf, tout ça se réveille. Et alors l'usine, vous imaginez pas, vous prenez un grand arbre, quelle usine il faut pour envoyer de l'eau et de la sève jusque tout en haut d'un arbre. Donc si vous l'embrassez, il y a toute cette énergie qui passe. Si on pouvait écouter, ça serait... Parce que l'arbre, en plus, c'est pour ça qu'il fait frais en dessous d'un arbre en été, c'est que l'arbre, il libère de la vapeur, il libère beaucoup d'eau. On ne le voit pas, hein, parce qu'elle s'évapore souvent. Mais quand vous êtes en dessous d'un arbre, vous dites, mais il fait frais ici. Ben, c'est toute cette vapeur qui redescend de l'arbre.
À qui appartiennent les rivières de la commune de Chastres? Qui doit les entretenir?
La plupart des rivières de la commune appartiennent à la province du Brabant-Wallon, et donc c'est eux qui les entretiennent. Quelques petits ruisseaux sont communaux, et donc c'est à nous à les entretenir.
Qu'allez-vous faire ou que faites-vous pour diminuer les inondations sur la commune?
Le remembrement, on a fait disparaître toutes les haies, c'est bien que la question vous m'ayez posée. Maintenant, quand il pleut, ben, l'eau, elle défile, elle a des grandes terres, elle coule vers les rivières. Elle arrive directement des rivières, elle n'est pas retenue. On peut arranger ça, mais je dis on, moi pas, je ne suis pas agriculteur. Donc, ce qu'on a détruit aujourd'hui, c'est le cycle de l'eau. L'eau, elle est faite pour rentrer dans la terre. Alors, je n'accuse personne, mais je vois qu'un agriculteur comme celui-là, qui ne laboure plus, qui travaille cette terre, qui met des bancs aménagés, qui met des couverts tout l'hiver, l'eau, elle rentre dans la terre et il n'a pas d'inondation. Alors, on en est aujourd'hui plutôt à ce qu'on appelle du palliatif, c'est-à-dire essayer de guérir le mal en dernière minute. Donc, on remet des haies, on met ce qu'on appelle des fascines, vous en avez peut-être déjà vu, des fascines, ce sont des endroits où on met des piquets, et entre les piquets, on met soit de la paille, parce que la paille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas empêcher l'eau de passer, mais elle va empêcher la terre de partir avec. Donc elle retient, ou bien on tresse des branches. La qualité des terres agricoles se dégrade, et c'est 50% de nos terres agricoles qui, aujourd'hui, perdent de leur bonne matière tous les ans.
Combien de bassins d'orage y a-t-il dans la commune? Pouvez-vous nous expliquer leur utilité?
Voilà. Donc, comme on ne sait plus retenir, enfin, ou comme les terres ne retiennent plus l'eau comme avant, retenir l'eau, comme j'expliquais, toutes les rivières finissent par se rassembler, allez, on va dire dans la Dyle, si on reste à notre bassin, il faut qu'on essaie de retenir l'eau sur chacun des trucs. Donc, il y a pour le moment une retenue d'eau qui est à Cortil, là tout près du rond-point du domaine. Il y a une petite retenue d'eau là-bas. Quand ça déborde, il y a quand même là-bas 10 000 mètres cubes d'eau à peu près. On a d'autres projets.
On sait que les arbres et les haies retiennent les terres et permettent de diminuer les risques d'inondation. Pourquoi n'oblige-t-on pas les agriculteurs d'en planter?
C'est difficile. Ils sont très conscients. Hein, comme je le disais, à partir du moment où il y a des coulées, ce sont les bonnes terres qui partent. Donc, un agriculteur, il est conscient que s'il ne fait rien, le bon s'en va, et finalement, il se retrouve avec l'argile où il n'y a rien de bon. Et il est chaque fois obligé de remettre du bon pour que ça soit bon. Donc, ils sont conscients de ça. Maintenant, ils ont aujourd'hui des grandes machines. S'ils remettent des partout, ça va les embêter. Par contre, ils sont quand même de très bonne volonté par rapport à ce qu'on leur demande. Obliger. C'est difficile. Vous avez vu, les agriculteurs, quand on les embête, ils vont manifester avec leur tracteur. Hein, voilà. Donc, il faut essayer de les convaincre.
Que pouvez-vous conseiller à des enfants de notre âge?
Alors, comment il y a moyen de favoriser, par exemple, si vous avez du lierre chez vous et que vos parents trouvent que le lierre, c'est une sale plante parce que ça grimpe partout, vous le laissez faire et quand il est suffisamment grand, il fait des fleurs. Ces fleurs, elles sont toutes petites, elles sentent très très fort, et vous allez le soir, au dernier soleil couchant, et vous avez 50 papillons, parce que ça sent tellement fort qu'ils rappliquent tous. Et là, on les voit. Mais c'est bien la preuve qu'il nous manque de fleurs pour ça, quoi. On appelle arbre à papillons, Buddleia, qui attire tous les papillons. Demandez à vos parents de les couper, parce que c'est un arbre qui, par son odeur, attire les papillons les trouvent super, donc ils pondent leurs œufs sur les feuilles du Buddleia, de l'arbre à papillons, et dans les feuilles de Buddleia, il y a une toxine pour les chenilles, donc toutes les chenilles qui naissent des œufs du papillon, elles meurent, donc ça attire plein de papillons, et c'est un piège, voilà. Une des choses importantes, c'est d'apprendre à connaître la nature qui est alentour de vous, parce que c'est comme ça que vous aurez envie de la défendre.